Alors la bibliothèque en vadrouille est ce soir à Bavilliers à l'issue de la projection du mois du film documentaire avec un petit moment d'échange avec Marie-Ève Degrave. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes la réalisatrice donc de Belle de nuit, Griselidis Real, Autoportrait, un film donc tout récent qui a été projeté et puis suite auquel vous avez participé au débat avec la salle et avec Gilles Barthélémy. Alors j'avais une question peut-être très précise tout de suite par rapport à ce projet, c'est que vous avez mentionné l'importance dans le travail autour de ce film d'un lieu qui est une bibliothèque à Berne où sont conservées les archives de cette écrivaine. Et donc pouvez-vous nous dire comment vous y avez accès, quels sont les types de documents qui sont conservés là-bas, un petit peu d'une manière générale, et puis après j'aurais peut-être une autre question toujours sur l'aspect documentation.
Oui, ben, ce sont donc tous les documents, les manuscrits, les tapuscrits, les photos du film qui sont dans le film sont donc aux archives littéraires de Berne, qui est un institut qui regroupe tous les manuscrits des écrivains de Suisse allemande, italienne et francophone, et qui est un lieu absolument génial où tout est entreposé avec parcimonie, avec une précision extrême à la Suisse, et où on a des manuscrits de Griselidis Real, mais aussi d'Ella Maillard, de Nicolas Bouvier, de certains écrivains allemands. Mais c'est vraiment un endroit assez magique et où on peut, tous les chercheurs peuvent aller s'amuser à voir les manuscrits originaux et c'est une super expérience de pouvoir voir des textes manuscrit.
Alors, est-ce dans ce même fond que vous avez découvert la revue Marge que vous utilisez dans le film, notamment au moment où vous parlez d'un texte manifeste qu'elle a écrit pour cette revue? Alors, est-ce que ça vient de ce même fond? Et puis, si ce n'est pas le cas, pouvez-vous nous parler un peu de cette revue qui, parce qu'on la voit, vous la feuilletez de manière très lente à l'écran, semble être une revue très graphique au niveau de sa mise en page. Moi, je ne la connaissais pas. Ouais. Voilà, donc peut-être un mot sur cette revue.
D'abord, il y a une petite. Donc, la revue Marge est une revue qui a été éditée dans les années. Qui est sortie dans les années 70 à Paris et qui était une revue de contestation, contestataire, libertaire. Qui parlait de sujets brûlants et qui faisait parler tous les invisibles, on va dire. Donc, il y avait des interviews de junkies, de voleurs, comme le dit très bien Yves Pagès, mais là, vous parlez du document qui est dans le film, en fait, ça a été refait. C'est-à-dire qu'on l'a remis en page avec mon mari qui est graphiste, parce que je voulais vraiment que se prostituer est un acte révolutionnaire.
Donc c'est un facsimilé.
Voilà.
Mais parce que c'est introuvable, c'est ça, maintenant, c'est vraiment quelque chose de très, très dur à
procurer.
La revue
Marge, on peut la trouver en bibliothèque. Et bon, Yves Pagès est collectionneur de cette revue, notamment, qui est l'éditeur de Griselidis Real. C'est donc des collecteurs. Mais la revue qui est dans le film est une fausse.
D'accord, très bien. Mais vous avez respecté la maquette ou pas?
Non.
Ah, d'accord.
Donc, on s'est inspiré de la maquette, en fait. On s'est inspiré de la maquette, mais on a tout. On a changé les typos et on a remis en page pour que dans le film, ce soit plus percutant.
En tout cas, la fiction fonctionne, puisque, n'étant pas contemporain des années 60, mais j'ai eu l'occasion de feuilleter des revues de cette époque. Comme ça, à l'écran, on aurait pu tout à fait croire que c'était une revue de l'époque. Donc, en tout cas, c'était une bonne idée.
Ouais.
Voilà. Alors, une autre petite question aussi. Ouais. Alors, peut-être que c'est moi qui extrapole, mais à un moment donné, dans une partie des archives sonores que vous utilisez, il y a une archive qui, moi, m'a paru vraiment, extrêmement étonnante. C'est un son de Griselidis avec un de ses enfants, qui a une voix complètement hallucinée, une voix nasillarde. Et moi, ça me fait penser, alors je ne sais pas si c'est un rapprochement pertinent ou non, à pour en finir avec le jugement de Dieu d'Antonin Artaud, qui est une proclamation sonore d'Artaud qui a été longtemps interdite. Et je trouvais qu'il y avait peut-être là une sorte de parenté dans deux rebelles Grise et Lédis de son côté et puis Rartaud du sien. Est-ce que c'est le hasard? En tout cas, d'où vient cette archive?
Alors, voilà. C'est très drôle que vous parliez de ça parce que, en fait, Igor Chimek, donc le fils aîné de Grise et Lédis, m'a donné sur une clé USB tous ses documents. Et dans ces documents, sonores et visuels, il y avait cet enregistrement. Et donc, qui était un enregistrement familial qu'il avait gardé. Et ainsi que le poème allemand, il y en avait plusieurs, etc. Quand j'ai entendu les poèmes, je me suis dit, c'est Antonin Artaud, il faut absolument que je le mette dans le film. Et puis quand mon monteur a entendu, parce qu'au départ je ne voulais pas parler de la mère dans le film, enfin de la maman, quand mon monteur a entendu « notre mère est une salope », etc., il a dit « bah attends ». Et on a groupé les deux, et, mais c'est vrai que c'est des archives familiales, mais qui donnent une couleur au film complètement, effectivement hallucinée. Et ça marchait bien par rapport au film.
Très bien, alors peut-être l'ultime question, vous l'avez dit aussi pendant le débat, que vous avez été... toujours à la source, enfin, ce qui a déclenché même ce projet en partie, en grande partie, c'est la lecture de ces textes. Mmh. Alors, comme ces petits entretiens, ils ont aussi l'objet de faire découvrir des textes. Je sais que c'est une question un petit peu réductrice, mais voilà, peut-être que vous pourriez de nouveau nous en parler pour l'entretien de manière assez succincte de sa littérature en général, et peut-être vous le texte ou quelques textes parmi son œuvre. Que vous pourriez donner comme exemple pour quelqu'un qui aurait envie de découvrir.
Alors, donc le premier, je vais d'abord vous citer les livres, c'est Le Noir est une couleur, qui est son seul roman autobiographique. Après, on a Le journal d'une de prison, qui est Suis-je vivante, suis-je encore vivante. Tout est aux éditions verticales. Il y a La passe imaginaire, Les Sphinx, et Mémoires de l'inachevé, et donc son fameux Carmel, qui sont donc disponibles aux éditions verticales. Et ce que je conseillerais en premier lieu, c'est très compliqué. Je dirais de prendre peut-être La passe imaginaire, de commencer par La passe imaginaire, puis après de lire Le Noir est une couleur, et puis après de peut-être passer par, si on a envie d'en savoir plus, par Le journal de prison et Les Sphinx, et de suivre l'ordre quelque part, mais de commencer néanmoins par La passe imaginaire. Voilà.
Très bien. Alors, avant de vous remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour cet entretien à la volée après la projection, j'avais juste envie d'ajouter cette réaction que je n'ai pas... dites au micro, mais qui m'est venue pendant le verre de l'amitié. Je trouvais que c'était très fort de votre part aussi de ne pas mettre à la toute fin du film, alors que quelque part on pourrait s'y attendre, mais je trouve que, pas du tout, quand on voit la vitalité qu'il y a dans votre film, on pourrait s'attendre à trouver la date de décès de Grise et Lédis, et on ne la voit pas. Donc je trouve que c'est aussi comme un geste pour dire qu'elle est vivante et que le film... bien que s'arrêtant, elle est toujours avec nous. Voilà, je voulais vous dire ceci.
Bah, merci.
Voilà. Et merci encore à vous d'avoir pris ce petit temps pour la bibliothèque, donc en Vadrouille, ce soir à Bavilliers. Merci Marie-Ève.
Merci beaucoup.